Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes venus très nombreux, comme le public, déjà ce vendredi, peut-être pour fêter tous ensemble le 40e anniversaire de la Foire du Livre de Brive, qui, cette année, est placée sous les auspices de François Bunel, qui est le grand maître d'œuvre de la littérature en France. Ah, oh, bah si, quand même. Mais avant de lui laisser la parole, aussi amoindri qu'il puisse être à cause d'un petit problème de santé, il est quand même bien là. Il va faire la course, le marathon briviste, sans faillir. Et je vais pour l'instant passer la parole à notre maire, Frédéric Soulier.
Bien. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, sénateurs, députés, madame la rectrice, mon colonel, cher François Bunel, cher président, mesdames et messieurs, c'est un moment particulier, vous l'imaginez, donc, et on peut aussi imaginer qu'en 1973, lorsque quelques passionnés fondèrent les premiers pas de cette foire, les premiers pas des amis du livre. J'imagine, avec le recul, leurs difficultés lorsqu'on se lance dans un projet aussi ambitieux qu'il pouvait paraître, leurs sentiments aussi mêlés. Et pourtant, au bout de ce chemin parcouru inlassablement, sur presque 50 ans, une heureuse coïncidence pour cette jeune quadragénaire de se sentir en pleine communion, cher François Bunel, avec le très beau film que vous avez réalisé, « Seule la Terre est éternelle » et qui sera projeté demain à 18h au Rex, que je vous recommande mille fois. Alors le pitch de ce film nous inspire que seule la nature peut nous aider à mieux vivre, une conviction que nous partageons et dupliquons ici sous l'inspiration que seule la culture peut nous aider à mieux vivre. Merci cher François Bunel qui... vous l'avez vu, malgré son handicap léger et provisoire, nous fait donc l'honneur de sa présence, même si nous comprenons qu'il ne pourra pas tenir sa place, hélas, demain, face à La Rochelle, même pas pour donner le coup d'envoi. C'est une tristesse que tout le monde partage, mais heureux quand même d'avoir à nos côtés cet homme de lettres et de médias, cet homme de talent, et comme un passage de témoin en cette année anniversaire, ces 40 années, de 82 à aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à la poignée de ces artisans promoteurs de ce que fut la foire et de ce qu'est la foire aujourd'hui, de Françoise Ségéral, de Georges Desouel, de Pierre Boulestex, de Celso Fernandez et Tibor Pataki, rejoints par Bernard Martina sous l'impulsion du maire de l'époque, Jean Charbonnel. Tous, voilà, et pas que, mais écrivèrent les pages de ce mouvement inarrêtable, finalement, devenu foire de la République des Lettres. Merci, cher François, d'être là à nos côtés. Merci, bien sûr, à toutes et à tous. Et aussi, aux côtés de ces artisans de la première heure, ces illustres fondateurs aussi, s'ajoutent les piliers de l'école de Brive, que nous connaissons ici en particulier, avec les regrettés. Et nous pensons à eux aussi, en particulier, Denis Tillinac et Jacques Pochemort, Alain Gazeau, et Claude Michelet, disparu il y a quelques mois seulement. Ce paysan écrivain, fils du résistant et ministre du général de Gaulle, qui a eu l'incroyable talent de nous faire vivre dans ses romans avec vraisemblance la valeur de la terre et de ceux qui la cultivent. À y penser d'ailleurs à ce moment, Claude Michelet aurait, je crois, bien aimé partager l'histoire de Jim Harrison de « Seule la terre est éternelle ». Donc la foire du livre lui rendra aussi un hommage particulier demain, samedi, à 18h30. Mais dans les murs porteurs que nous évoquons ici, la mémoire pour ceux qui nous ont quittés, il y a eu aussi, à côté des écrivains de l'école de Brive, les Christian Signol, Gilbert Borde, les Colette Lossac, Jean-Guy Soumy, Martine-Marie Muller, Yves Portier-Rétoré, Yves Voilier, que d'ailleurs Jacques Duquesne, dans Le Point, célébrait le mystère de Brive. Le mystère de Brive, s'émerveillant qu'une sous-préfecture donnant naissance à une équipe de romanciers à succès. Et quand il écrivit cela, il sous-estimait peut-être le poids de ses mots. Je pense bien sûr à ce moment particulier aussi, dans ses 40 ans, à Michel Peyramore, infatigable écrivain. Je le dis à nos invités qui viennent de l'extérieur. Infatigable parce que, oui, l'année dernière, il a livré son 100e livre. L'année dernière, qui s'intitulait « Inventaire avant fermeture ». Eh bien, quand on connaît Michel, pas tout à fait « Inventaire avant fermeture », puisqu'il a fait comme au théâtre. Il est revenu sur scène, sur la scène de l'écriture, avec « Lila blanc et rose noire », le roman de Marie de Régnier. Michel est donc notre aîné vivant de cette fratrie de l'école de Brive, et nous avons pour lui, en ce moment, des pensées bien affectives. Pour nous, ce sont ces hommes et femmes, pardon de prendre le temps de parler d'eux, parce que portés par cette espèce d'inspiration, cette espèce d'initiation, qui contribuèrent tous ensemble à fonder la réputation de Brive. Permettez-moi aussi de nous souvenir de notre ami Jean Tellet, disparu le 18 octobre dernier, qui se qualifiait, vous vous en souvenez sans doute, de président anormal de la Foire du Livre de 2014. J'évoquerai son souvenir par cette interview qu'il donna, où il parlait de lui et de son parcours de vie. Je le cite. « Je ne lisais, dit-il, que des bandes dessinées et je suis devenu dessinateur. Je ne regardais pas la télévision et je suis devenu animateur. Je n'étais pas écrivain et je suis arrivé à l'écriture de romans grâce à l'éditrice de chez Juillard qui m'a convaincu de franchir le pas. Pour Brive, nous aimions la langue, le style de ce génie. Nous aimions l'homme et sa personnalité. L'humanisme de ce truculent grand gaillard collait bien à l'esprit de la cité. » Alors 2022, nous y sommes, nous y voilà, et c'est le tour de cette 40e édition comme un tournant, une nouvelle fois, de l'écriture et de la lecture dans un espace, pour le coup, multidimensionnel, prêt à accueillir donc ces 460 acteurs, ces 460 auteurs et bien sûr ces 170 maisons d'édition. Une foire à l'heure de la multiplication des débats de l'actualité dans le monde, ce qui fait aussi notre actualité, nos débats, et bien sûr aussi sur l'avenir toujours de la chaîne du livre autour des acteurs professionnels qui finalement se voient peu et pas, ou pas et peu, et ils ne se parlent peu à Paris lorsqu'ils se rencontrent. Une foire qui suggère par ses rencontres autour de la poésie dont Brive cette année est honorée par l'obtention du label national Ville en poésie. Une foire qui soigne sa programmation et celle de François Bunel a du contenu qui privilégie une littérature éclectique avec une place forte pour la jeunesse, comme en témoigne la conférence inaugurale donnée cet après-midi avec les excellents Joanne Sfar, Christophe Blain, Mathieu Sapin autour d'Émile Bravo, comme demain avec la prestigieuse Suzy Morgenstein. Autant de talents pour les jeunes lecteurs que la bande dessinée finalement est sans doute peut-être la première écriture de nos jeunes âges. Une foire qui s'étale sur 10 sites dans la ville avec un changement bien sûr qui s'imposait sur le principe du principe de précaution mais qui finalement permet de rendre l'offre plus confortable pour les auteurs et leurs lecteurs et grâce aussi à la voie verte, elle assumera une sorte de transhumance de la littérature adulte vers celle de la jeunesse. La Foire du Livre de Brive se veut une nouvelle fois à la fois d'ailleurs dans la modernité comme dans la tradition qui nous fait apprécier que le livre est un objet extrêmement essentiel à notre vie, qui, je l'espère, tiendra donc toutes ses promesses, comme à chaque année, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. La ville de Brive exprime vraiment toute sa gratitude aux maisons d'édition et aux auteurs, aux libraires, bien sûr, présidés par Nicolas Poiré, à nos partenaires privés, à nos bénévoles, donneurs de temps, aux collectivités départementales et régionales, Pascal Coste et Alain Rousset, et le Conseil national, chère Régine Hachondo. Voilà, merci à François. Alors, l'autre, il est où ? Derrière moi. Pardon. Pourtant, il est souvent devant moi, François. Mais merci à toi, François, notre commissaire, avec tout le service de la culture qui nous accompagne. Mille merci à toute cette équipe qui contribue à faire de cet événement avec les élus Jacques Vessière, Anne Collasson et notre adjoint à la culture, Philippe Lescure, qui contribuent tous ensemble à faire de cet événement culturel. Bon, ce n'est pas une coquetterie, c'est une vérité. C'est quand même le premier événement national où on vient acheter le plus de livres possible en quelques 30 heures d'ouverture. C'est une vraie performance. Brive restera sans doute ce monument culturel pour celui qui écrit et celui qui lit. Et c'est bien son caractère singulier. comme le rappelait Jean d'Ormesson, Brive aime le livre et il est bon aussi de rappeler et de le dire. C'est bien ce qui nous rassemble et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente foire du livre à Brive. Merci.
Merci Monsieur le maire. Avant de passer la parole au président de cette 40e édition, nous souhaitions donner un salut particulier à Betty Mialet, qui est l'éditrice et l'amie de Jean Tellet et qui nous fait la grâce d'être avec nous ce soir. Et on pense très fort à Jean. François Bunel, Monsieur le Président, à vous.
Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être ici. Merci, Monsieur le maire, cher Frédéric, pour ces mots d'accueil et ces mots dits à la littérature. La littérature, c'est des acteurs, et il y en a pas mal ici ce soir. J'ai sorti, hein, c'est pas mon habitude, hein, ceux qui me connaissent un peu, je vois Éric Fotorino qui sourit au premier rang, mais Éric, comme d'autres, me dirait sûrement, non mais ne te lance pas dans des improvisations, ça va durer 1h30. Alors je vais pas vous faire 1h30 d'improvisation, et donc j'ai exceptionnellement un peu écrit les quelques mots que je voulais vous dire ce soir, tout en regrettant d'être venu avec des béquilles, mais enfin cela dit, je vais commencer cette foire comme vous la finirez tous, c'est-à-dire sur les rotules. Et Régine Atchondo, qui est donc la patronne du Centre National du Livre, mais elle est un peu notre patronne de la littérature. Elle me disait dans le train, tu te vois, tu t'es blessé au genou. Et en bonne lacanienne, et alors ça annule tout mon discours, elle me disait, mais le genou, comment écris-tu genou ? J-E-N-O-U-S. Je vous dis ça parce que ça m'empêche littéralement de dormir et même de présider depuis l'arrivée en train à Brive ce matin. Mais enfin bon. Et merci d'avoir mentionné aussi Jean Tellet parce que évidemment on peut pas parler de littérature sans avoir une pensée pour Jean. Et puis pour tout ce qu'il nous a apporté. Et en ce qui me concerne, je dois dire qu'il m'a apporté énormément. Énormément. La simplicité et peut-être ce qui sera le plus important dans cette foire du livre, c'est rappeler que l'esprit est plus important que la lettre. Et Jean Tellet est celui qui nous a à tous rappelé que l'esprit de sérieux était à bannir, qu'on pouvait être joyeux, léger, pétillant et néanmoins extraordinairement profond. Et toute son œuvre parle pour cela. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de la lire et de continuer à la lire. Je voulais vous remercier, mon cher Frédéric, d'avoir confié la présidence à un non-écrivain, à un journaliste, c'est-à-dire à quelqu'un qui normalement devrait être dans la salle à écouter et à poser quelques questions. Alors bien sûr, il y a eu quelques journalistes, des journalistes fameux autrefois. Je me suis amusé à regarder le palmarès. Il y a évidemment Jean Tellet, parce que vous le rappeliez, Frédéric, il était, il le disait lui-même, animateur. L'assiette anglaise, souvenez-vous. Mais je crois qu'il a fait ce travail aussi de journaliste à sa façon. Je me suis dit, bon, très bien, il y a Tellet, c'est bien, parce qu'il avait été aussi de l'autre côté de l'écran. Alors, je regardais dans le palmarès, il y a eu Laure Adler. Ah, et je me suis dit, mais mince, Laure Adler, elle était comme Jean Tellet, elle est aussi écrivaine. Tombe mal, moi, j'écris pas. Je regardais du côté des autres journalistes, je remonte un peu moins loin, et je vois Éric Fotorino, l'ancien patron du Monde, et le patron du 1. Avec qui on a commis quelques forfaits, et notamment créé une revue qui s'appelle America. Je me dis, très bien, il y a un autre journaliste. Manque de chance, c'est l'un de nos meilleurs écrivains. Bardé de prix. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je remonte en arrière, et qui vois-je il y a 20 ans ? Le patron. Bernard Pivot. Saint Bernard Pivot. Et oui, l'homme grâce à qui nous sommes, je crois, tous là ce soir, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous a habitués à ce qu'on trépigne en posant des questions, à des questions malines, des questions indiscrètes, des questions complexes, des questions simples, à des gens qui n'avaient pas forcément la réponse, mais quand ils parlaient, ils nous rendaient intelligents, c'est-à-dire les écrivains. Et je me dis, bon, très bien, je peux m'abriter derrière Bernard Pivot, de toute façon, je fais tout comme lui, mais avec 25 ans de retard et 15 tramways derrière. Il dirige un journal, lire, j'y mets les pieds. Il fait une émission de télé, j'essaye de faire un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Une table basse, 4 fauteuils, et puis des écrivains dessus. Mais non, même pas. puisque Bernard devient un écrivain, comme les autres, comme Teulet, comme Laura Adler, comme Fotorino. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse alors? Qu'ai-je donc fait pour être ici? Et du coup, cette invitation, mon cher Frédéric, fait que je me suis posé la question de ce que devait être un journaliste. Quand on n'a pas le talent des précités pour devenir écrivain, qu'est-ce qu'il nous reste? Je me suis demandé quel était le rôle du journaliste et j'ai fini par me demander s'il ne se résumait pas à celui-ci, poser des questions. Être atteint de cette maladie un peu incurable, mais rassurez-vous, transmissible mais pas grave, qui est la questionnite, tendance aiguë. Je voudrais donc, si vous le voulez bien, faire un bref éloge de la question. À une époque qui est certes passionnante, mais enfin vous l'aurez remarqué, qui est une époque qui bannit la question. Quand vous allumez la télévision ou la radio, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Des gens qui savent. On les appelle les éditorialistes. Il n'y a plus que ça. Les gens qui vous disent ce qui se passe. Tout le monde a un avis sur tout. En soi, ce n'est pas très grave. Ce qui est un peu plus problématique, c'est que tout le monde se sent obligé de l'écrire ou de le donner, si possible en 240 signes, sur des réseaux dits sociaux. Et ça donne une époque un peu complexe où il n'y a plus beaucoup de journalistes, mais énormément d'éditorialistes. J'aimerais dire aussi une chose que Jean Teulet aimait bien rappeler. Il disait, souviens-toi, le journaliste, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui sait rien. Et il sait tellement pas qu'il a envie de découvrir. Et c'est parce qu'il a envie de découvrir qu'il va aller poser toutes ces questions aux uns et aux autres. Et c'est la raison pour laquelle il préférera d'ailleurs toujours les questions aux réponses. Finalement, je me dis, on est peut-être, nous, les journalistes, pas très utiles, mais on remplit une fonction dans la société qui est d'être des audiophiles, c'est-à-dire des oreilles qui traînent. Et j'ai l'impression, moi, d'être un audiophile égaré en littérature qui se pose sans cesse cette question que je vous livre, question pénétrante, puisqu'on la trouve dans le livre d'un des meilleurs écrivains, un livre qui s'appelle Dalva, de Jim Harrison. Que deviennent les histoires quand il n'y a plus personne pour les raconter? Eh bien, rien. Et si, au fondement de la littérature, il n'y avait pas, un tout petit peu quand même, le besoin que quelqu'un pose des questions pour que les écrivains se mettent à raconter les histoires? C'est une question, je ne suis pas sûr. En lisant ce livre de Jim Harrison, Dalva, que je vous recommande, j'ai compris une chose, c'est que pour bien questionner, il fallait accepter de réhabiliter l'admiration. Mot horrible. Aujourd'hui, on aime le sarcasme, la raillerie, la vanne, comme on dit. L'émerveillement, la curiosité. Rappelez-vous, on a été nombreux, je crois, à avoir été élevés, c'est moins le cas aujourd'hui, avec cette idée terrible. La curiosité est un vilain défaut. Sérieux, qui n'a pas entendu ça dans son enfance? La curiosité est un vilain défaut. Mais non, la curiosité, au contraire, est la première des qualités. C'est quand même curieux cette époque et ce pays où on nous fait croire qu'une qualité, une des rares, est un défaut. Alors il y en a qui ont réponse à tout, les éditorialistes. Moi je crois que le journaliste, c'est celui qui a question à tout. Un peu comme les lecteurs. Et j'en reviens, mon cher Frédéric, à votre foire. Celle où les lecteurs, je l'écris en deux mots, hein, les lecteurs. Hein ? Oui, mais le lecteur forme un meilleur électeur, croyez-moi, quand il a lu un peu. C'est le lieu des écrivains, la foire de Brive, c'est vrai, mais je trouve que, et c'est peut-être sa particularité, c'est d'abord le lieu des lecteurs. On s'en rend compte en permanence quand on les voit, quand on les entend, quand on voit le nombre impressionnant, vous l'avez rappelé, de gens qui viennent en trois jours lire des livres et surtout les acheter. J'insiste sur le mot acheter. Même chose, on se dit « ah non, c'est vulgaire ». La littérature est pure idée. Non, pas du tout. La littérature est aussi un marché et il faut le soutenir. Je crois que c'est au fond pour ça que j'ai accepté cette présidence. Si les écrivains restent entre eux, ou avec les éditeurs qui restent aussi entre eux, alors les questions s'éteignent. On se félicite, on se congratule, on s'adore ou on se déteste, mais on s'épargne les questions. Et les lecteurs, eux, ceux qui sont à Brive, ceux que vous allez voir là pendant trois jours, ne sont que questions. Alors, racontez-moi, comment avez-vous fait ? Ah, j'ai adoré votre livre, mais comment vous l'avez écrit ? Mais pourquoi là ? Pourquoi ce style ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? La sainte trinité des questions très embêtantes pour l'écrivain, c'est-à-dire, qu'avez-vous voulu dire ? Est-ce que c'est autobiographique ? Jusqu'où ? Et puis, il y a des dizaines d'autres questions qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont les questions de fond, de forme, métaphysique, physique, les questions vivantes. Bref, ce que nous montrent les lecteurs, c'est qu'en fait, on est vivant que quand on questionne, que quand on interroge. Et je crois que c'est à ça que sert une foire. Parce que je me disais, mais finalement, pourquoi rassembler tant de gens sous un chapiteau ? Mais c'est peut-être ça. C'est faire une nation de questionneurs. Non pas de suiveurs, non pas de gens qui ont réponse à tout, mais de gens qui se disent « Et si je remettais les choses en question ?» Questionner sans relâche, faire vivre les mots en interrogeant le monde. Renoncer donc aux certitudes, à tout ce qui fossilise, ouvrir des perspectives. Et ça, qu'est-ce qu'il fait surgir ? Ben, le roman, la fiction, les livres. Faire ricocher les questions sur le grand lac de l'ignorance, comme ça, et puis s'apercevoir que tout à coup, l'inattendu peut venir embellir l'existence, l'élargir, rajouter des choses, mettre un peu de poésie dans un monde qui décidément en manque de plus en plus. Mettre le monde en question, voilà ce que fait le romancier, et voilà l'immense privilège du lecteur. Ouvrir un livre, se laisser emporter et se rendre compte que les certitudes sont balayées. Alors je vais vous poser là tout de suite quelques questions. Et si questionner, c'était en fait restituer la complexité ? Quand il est si facile de simplifier. Et si questionner, c'était exercer son esprit critique, quand tout le monde vous assène des leçons de morale. Et si questionner, c'était refuser le confort, tiens, par exemple. Et si questionner, c'était apprendre à se perdre, dans le labyrinthe de ses propres questions, parfois. Et si questionner, c'était être pénétrant plutôt que menaçant. Et si questionner, c'était être forcé de reconnaître ses propres démons. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain Tesson et Eric. Et si questionner, c'était découvrir que la langue a un pouvoir. Et même quand le pouvoir s'échine à nous confisquer, la langue. Si questionner, en fait, c'était un peu désobéir. Si questionner, c'était guérir du ressentiment, des pensées tristes. Et si questionner amenait un peu d'impertinence, donc un peu d'humour. Et s'il y a un peu d'humour, le rire, qui sauve justement de l'esprit de sérieux dont on parlait tout à l'heure. Et si questionner, c'était finalement mener l'enquête, être une sorte de détective. Et si c'était être libre, questionner, tout simplement. Et alors là-dedans, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que lire ? Eh bien, lire, c'est peut-être comprendre que l'approfondissement de nos questions est plus important que la réponse. Qu'on ne pose pas de questions pour obtenir des réponses. Que la réponse, comme disait Blanchot, c'est le malheur de la question. J'aime bien cette phrase. Que l'écrivain, le bon écrivain, le romancier, celui que vous allez voir là, pendant 3 jours, ceux que vous allez voir, suivent généralement, s'ils sont bons, la recommandation de Faulkner, qui disait ceci, qui est admirable. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit, en plein milieu d'une forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir. Elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et finalement, et si l'essentiel était là ? Faire vivre la curiosité. Par la question, par le questionnement. La question, ça permet l'étonnement. Et dès lors qu'on cesse de s'étonner, je vous pose la question. Est-ce qu'on ne se transforme pas un tout petit peu la vie en banalité ? J'en viens à une des plus belles significations pour conclure du mot « question », qui est « remettre en question ». Et même, on peut ajouter le possessif « se remettre en question ». Et est-ce que le meilleur moyen de se remettre en question n'est pas de se lancer de nouveaux défis, de changer de vie, d'oser sortir de la zone de confort ? De relancer les dés, comme on dit. Alors personnellement, c'est ce que je compte faire, en suivant l'exemple de tous ceux que j'ai cités, les Bernard Pivot, les Jean Tellet, les Laura Adler, les Fotorino, et sans arrêter de me poser des questions. Alors attention tout de même, petite précision, ça ne veut pas dire que la question doit occulter ou faire oublier la réponse. Les journalistes ou animateurs qui croient ça doivent à tout prix, d'urgence, faire soigner leur ego. Mais nous pousser à nous questionner sans cesse, nous pousser à douter, nous pousser à nous remettre en question, eh bien voilà ce que vous faites, vous, les écrivains. Et voilà ce que vous faites, vous, les lecteurs. Quand vous lisez, ou quand vous écoutez une émission, ou quand vous la regardez, et quand ensuite vous allez en librairie ou en bibliothèque lire un livre. Et pour cela, je crois que vous tous méritez un mot qu'il faut prononcer à haute et intelligible voix, un mot qui grandit celui qu'il prononce et puis qui encourage celui qu'il reçoit. C'est finalement le seul mot qui ne soulève aucune question. Merci.
Cette 40e édition est donc placée sous le signe d'une intelligence vive. François, ne vous rasseyez pas. Votre charge de président vous appelle à nous quitter, à nous rejoindre, bien sûr, un peu plus tard, dans toutes les périples de cette 40e édition. Mais vous nous quittez en laissant la place à...
Est-ce que je peux ajouter une chose?
Oui.
sur Brive?
Bah oui.
Parce que je peux parler de Brive.
Bah, vous avez deux minutes. Hein.
Non, mais très bien. J'adore cette ville pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la ville où on mange très bien. C'est une ville du rugby. C'est une ville où je m'étais promis de traîner Jim Harrison à une époque où il traînait partout en France et où je le conduisais dans des expéditions souvent lamentables. D'ailleurs, j'en fais confession dans le petit livre qui vient de paraître sur le film. Mais c'est aussi la ville, il faut que vous le sachiez, où il y a quelques années, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et ça, ça n'est pas à remettre en question.
Qui a été elle-même présidente de la foire Delphine de Vigan. Merci François. Vous laissez place à Pascal Cavide, qui est donc conseiller régional délégué, qui représente Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs. Il me revient de parler derrière François Bunel, ce qui n'est pas une chose aisée. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de plaisir à représenter le Conseil régional et le président Alain Rousset aujourd'hui, puisque le cœur de la culture régionale bat à Brive ce soir, et même le cœur de la France culturelle bat à Brive et bat en Corrèze. Donc j'ai beaucoup de plaisir à être là parmi vous. Et avec tous les partenaires qui sont là, les nombreux partenaires, la ville de Brive, bien sûr, les libraires, les entreprises, le Centre national du livre, le département, tous les partenaires de cette manifestation, et puis la région, bien sûr, qui est le deuxième partenaire de cette grande opération qui est la Foire du Livre. Alors, vous le savez, la culture, c'est une compétence partagée entre nous, les collectivités. C'est une compétence clé pour nous à la région. Ça n'est pas un secteur comme les autres. C'est l'affaire de tout le monde. Et la nombreuse assistance et le nombreux public qui vient à la Foire de Livre pendant 3 jours en témoigne. Édouard Herriot disait « La culture, c'est ce qui reste quand on oublie tout ». Et Jean Villard lui répondait, il disait « Non, c'est ce qui reste quand on ne nous a rien enseigné ». Donc il ne m'appartient pas de trancher ce débat. Ce que je voulais dire quand même, c'est que pour nous, à la région, c'est un domaine très important. Puisque c'est un facteur de lien social, vous le savez, la culture, on est tous là des partisans de la culture, d'émancipation individuelle et collective pour notre territoire, pour ses habitants. C'est un vecteur puissant de citoyenneté et donc c'est le vecteur de la démocratie et nous devons être tous mobilisés, nous le sommes ici, au service des acteurs culturels. Dans une période que nous traversons aujourd'hui, qui est une période de crise et de doute dans de nombreux domaines, ça reste un moyen puissant de résistance, on peut le dire, dans une société démocratique qui croit en son avenir. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil régional, dans son vaste territoire de Nouvelle-Aquitaine, a engagé de nombreuses actions et un certain nombre de politiques culturelles. Je ne vais pas détailler ces politiques culturelles aujourd'hui, mais je voudrais quand même rappeler les 4 axes qui nous animent. C'est d'abord le soutien à la création culturelle. Par le respect de la liberté des créateurs, il n'y a pas de culture sans créateurs, que ce soit des écrivains ou tout type de culture, des artistes. Par le soutien à la diversité des formes d'expression, nous aidons 173 compagnies et ensembles musicaux et finançons 150 lieux de diffusion dans toute la région. Deuxième point, par un maillage territorial cohérent, dans une logique de transition écologique, mais avec nous finançons, nous aidons avec d'autres collectivités 400 manifestations chaque année dans tout type de territoire, que ce soit des grandes villes, dans la métropole bordelaise, mais aussi dans des territoires beaucoup plus ruraux. Troisième axe, c'est l'engagement essentiel en faveur de la démocratisation, l'accès à l'offre artistique et culturelle sur son territoire. Ça passe, Madame la Rectrice, par tout ce qui se passe dans les lycées, dans les collèges, auprès des jeunes, des stagiaires, des apprentis. Et puis le quatrième axe, c'est la structuration des filières. Nous avons signé 4 contrats de filière avec la musique, le livre, le cinéma, les arts plastiques et visuels. Nous sommes d'ailleurs la première région de France à l'avoir fait. Et je crois que c'est très important pour structurer les filières. Frédéric Soulier disait tout à l'heure que la Foire du Livre, c'est l'occasion de beaucoup de rencontres. Il citait également des auteurs qui nous ont quittés. Alors bien sûr, c'est le moment de penser à eux. Moi, j'ai une pensée pour Denis Tillinac, d'abord parce que c'était mon voisin à Tulle. Hein, quand il n'était pas Aurillac, il était à Tulle. Et il me disait parfois le dimanche, quand il rentrait des matchs du Sporting... Alors on est à Brive, mais je vais parler du Sporting Club Tulis. Il disait, si tu dois durer ici, il faut que ça prenne du temps. Voilà, donc c'est un peu ça la Foire du Livre de Brive. Elle a 40 ans. Mais elle est toujours jeune parce qu'elle a su durer, elle a su prendre le temps de se développer avec de nombreux acteurs. Et je lui souhaite toute réussite pour cette année. Et je vous assure de la part du président Rousset un soutien total et entier. Merci.
Merci Pascal Cavite. Et bien maintenant la parole est à Pascal Coff qui préside le conseil départemental de la Corrèze.
Bon, monsieur le maire, cher Frédéric, monsieur le préfet, mesdames et messieurs à vos grades et qualités, je voudrais vous dire le plaisir de se retrouver, comme chaque année ici, avec vous tous pour cette magnifique Foire du Livre, cette 40e, qui nous réunit une nouvelle fois, avec peut-être encore plus de monde que les autres années. En tout cas, ça démarre très très fort, avec un vrai besoin de lecture, un vrai besoin aussi de se retrouver. Tout au long du week-end, cette cité Gadarde aura l'occasion d'accueillir à la fois des femmes et des hommes de lettres, des lauréats des grands prix d'automne pour certains, des penseurs, mais aussi d'importantes personnalités de la vie publique française. La Foire du Livre, c'est avant tout un événement populaire et festif. Il s'adresse à tous les lecteurs les plus aguerris, mais aussi les plus occasionnels. Et je voudrais aussi dire qu'à cet égard, qui mieux que François Bunel, pour nous parler, pour nous faire découvrir et aimer les écrivains, les livres, et plus globalement la culture, mais aussi nous permettre de nous re-questionner. Merci à vous, cher François, d'avoir accepté de poser vos valises en Corrèze. Mais je crois que vous nous avez expliqué que c'est des valises que vous remplissez régulièrement. Le temps d'un week-end en assurant la présidence de ce grand rassemblement. La Corrèze a beau être un département rural, elle n'en est pas moins une terre de lettres. Et je voulais aussi avoir une pensée pour deux écrivains qui ont marqué notre territoire et qui nous ont quittés cette année. Bien sûr, Jean Tellet, grand habitué de cette Foire du Livre, il a fréquenté quasiment chaque année et puis il en assura, comme ça a été dit, la présidence en 2014. Avec la verve mordante et l'humour décapant qu'on lui connaissait, ce partisan du bon mot, ennemi juré de l'ennui et du conformisme, et qui aimait plus que tout le contact avec le public, ne manquait jamais une occasion d'ironiser. « Je serai un président anormal », avait-il déclaré en amont de l'édition 2014 de La Foire. Dans un tout autre registre, je souhaiterais aussi rendre hommage à Claude Michelet, représentant de l'école de Brive, lui aussi disparu cette année à l'aube de ses 84 ans. Et pour nous tous ici, il restera la figure du paysan écrivain, l'auteur de la saga des Viales, dans laquelle nous pouvons tous reconnaître un aïeul. Claude Michelet, mais aussi Denis Tillinac, Jean-Paul Malaval, Michel Perramont, Christian Signol et tant d'autres encore, ces noms nous sont familiers, car ils ont su traduire par des mots choisis et des images authentiques ce que signifie être corrézien. Ils ont su nous rendre encore plus fiers de nos racines, de notre histoire et de nos traditions. Dans cette même veine, je souhaite aussi saluer les auteurs en résidence d'écriture qui ont noué de solides attaches en Corrèze, où beaucoup ont trouvé la liberté d'écriture qu'ils recherchaient. Merci de votre fidélité au département. Par-delà les écrivains du CRU, corréziens de naissance ou de cœur, je tiens aussi à remercier l'ensemble des quelques 400 auteurs qui, par leur présence, font la richesse et la diversité de la Foire du Livre. La vie littéraire corrézienne, ce sont aussi de nombreuses initiatives qui se multiplient tout au long de l'année, en ville comme à la campagne. Des initiatives qui rejoignent l'action du département au travers notamment de la bibliothèque départementale de Pré. Avec son réseau de 130 bibliothèques et dépôts de lecture, elle permet l'accès aux livres pour tous, pour tous les Corréziens, y compris ceux qui pourraient s'en sentir éloignés du fait d'un handicap. La culture inclusive, par tous et pour tous, voilà l'esprit aussi de la Foire du Livre. Cet événement s'inscrit ainsi pleinement dans la politique culturelle départementale, conduite par mon collègue Philippe Lescure, qui a succédé à Francis Collasson, auquel j'adresse toute mon amitié. Je terminerai mon propos en remerciant et félicitant chaleureusement l'ensemble des organisateurs et des partenaires. La ville de Brive, cher Frédéric, toujours au rendez-vous, innovant. Le commissariat de la Foire, cher François, qui donne le plus clair de son temps et le meilleur. Ainsi que toutes vos équipes, élus, agents publics qu'on voit, bénévoles, qui se sont mobilisés, qui se mobilisent sans compter pour ce grand rendez-vous littéraire, synonyme d'émulation intellectuelle et symbole de notre art de vivre à la corrézienne, soit une parfaite réussite. Merci à tous et bonne Foire du Livre.
Merci Pascal Coste. Il est temps de laisser la parole à François Bunel, l'a présenté comme Madame Littérature en France, ce qu'elle est. Donc, c'est un peu lourd, Régine. Je laisse la parole à Régina de Chondeau, qui est présidente du Centre national du livre, le CNL.
Bonjour, merci, monsieur le préfet, monsieur le vice-président de la région, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, cher Frédéric. Et nous avions eu l'occasion de partager des dossiers qui n'étaient pas que la littérature, mais dans le spectacle vivant. Monsieur le président de la Foire du Livre, donc François qui vient de partir, mais je voulais, et je le dis quand même, saluer votre choix, qui est excellent, cher François, cher commissaire. Excellent choix, évidemment. Mais aussi dire à quel point j'ai été frappée lorsque je suis arrivée à la présidence du Centre National du Livre, de l'action souterraine moins visible que celle qu'on connaît de François, qui pendant les années de Covid, puisque je suis arrivée lors pendant le Covid, malheureusement, pendant la crise sanitaire, menait un travail souterrain qui a porté ses fruits de conviction de l'ensemble des politiques français et du président de la République de rendre la lecture grande cause nationale et de rendre les librairies essentiel. Et donc je le dis haut et fort, il a été pour beaucoup dans ce combat et cette réussite. Et au fond, à travers cela, il a aussi permis, même s'il l'imaginait pas, au Centre national du livre d'avoir développé tout un plan d'action sur la lecture qui nous semble extrêmement importante. Le Centre national aide tous les professionnels du cinéma, comme vous le savez certainement. Mais depuis 2 ans, nous avons déployé non seulement des budgets, mais aussi des actions très fortes en faveur du développement du lectorat, compte tenu du décrochage des adolescents à l'âge de 12 ans, qui nous est confirmé par toutes les études que nous menons. Et nous désole, car comme vous l'avez tous dit, la lecture est au cœur de Brive aujourd'hui, avec le succès qu'on connaît. Et c'est vrai que je pense qu'on a ici l'alchimie à la fois de l'ensemble des professionnels, de la présence nombreuse d'auteurs, sans rapport de classe, sans mépris d'un genre de littérature par rapport à un autre, ce qui est assez rare, je trouve, dans les manifestations littéraires. Il y a la chaleur, je crois, typique de la Corrèze, cette générosité, cette attention aux autres qui transparaît je trouve, dans l'installation, dans la manière dont on est reçu. Et puis il y a, comme et François rappelait aussi que c'était pas ça là, cette dimension fortement commerciale, c'est-à-dire ces livres vendus en très grand nombre comme nulle part ailleurs dans aucune foire, et qui fait que l'alchimie entre l'art, la littérature et le commerce propre à la vie et à la vitalité des industries culturelles est, je crois, ici très emblématique à Brive. Et donc vous êtes un des acteurs très importants de la filière du livre, mais aussi, c'était déjà le cas François, mais après avoir parlé avec François David, votre commissaire, nous avons aussi demandé si c'était possible et soutenu le fait que des actions tout au long de l'année qui existaient déjà mais puissent être amplifiées, massifiées pour se rendre dans les établissements scolaires en présence d'auteurs, pour développer aussi chez les plus jeunes ce goût de la lecture qu'ils ont tendance à ne, pour certains, à ne plus connaître, et lié aussi à l'addiction des écrans dont je pense qu'on ne communique pas assez sur les méfaits qu'ils créent sur le cerveau des enfants et des adolescents, et qui peut à long terme créer une nation et un peuple d'une pauvreté cérébrale et intellectuelle incroyable. Et bien sûr aussi la dimension de l'imaginaire, de l'évasion, du rêve, de l'esprit critique. On sait tout ce qu'apporte la lecture, je le dirai moins bien que François, mais je crois qu'on a tous, autant qu'on est ici, une responsabilité très urgente de nouveau donner au livre pour les jeunes qui en sont éloignés pour plusieurs raisons, le déclic, le plaisir, l'envie de lire et de se retrouver non pas seul avec un livre, mais heureux avec un livre. Et c'est ce pourquoi on a déployé ce plan dont je parlais de soutien à la lecture, et nous sommes très heureux d'avoir obtenu les arbitrages pour le continuer pendant 5 ans. Donc on pourra continuer à vous aider davantage encore sur tout ce qui relève de ce déclic, ce désir du livre et de la littérature pour les jeunes, pas uniquement les jeunes. On a des actions dans les EHPAD, dans les centres de protection maternelle et infantile. On a créé, comme vous le savez, avec l'Académie Goncourt, le Goncourt des détenus. On a un très gros partenariat de masterclass et de développement de résidence dans les écoles, les collèges et les lycées grâce à l'Éducation nationale. Donc on essaye d'être partout et de faire en sorte que le fil rouge de notre action soit que le livre se glisse partout, dans les familles, dans les lieux publics, évidemment dans les foires et les salons dont vous êtes celui qui, je crois, est le plus emblématique dans son succès. Donc je ne vais pas être plus longue parce que je ne vais pas détailler tout ce que nous faisons, mais en tous les cas, je tiens à ce que vous le sachiez, compte tenu de son importance et du fait que vous pouvez évidemment nous solliciter pour vous accompagner dans vos actions. Merci beaucoup et très belle foire.
Merci Régina Tchondeau, qui n'est pas seulement Madame Littérature, mais c'est Madame Livre, c'est Madame L'écrit, c'est Madame Éducation. En fait, dans le bassin, si ça, tout ce que vous venez de décrire, vous nous faites comprendre que le livre est effectivement le grand vecteur de l'éducation dans ce pays et à tous les âges. Avant de remettre le Grand Prix de la langue française avec Frédéric Soulier et Éric Fottorino à, je vous ne dirai pas encore qui, vous aurez le plaisir de la surprise, qui est un peu éventée, d'accord. Je vais demander à Étienne Desplanques, qui est monsieur le préfet de la Corrèze, de clore cette première partie d'inauguration. Merci.
Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Brive, monsieur le commissaire général de la foire du livre, cher François David, madame la présidente du conseil national du livre, il me revient la lourde tâche de conclure cette séquence de discours en vous disant à quel point c'est un immense plaisir pour moi que de participer à cette 40e édition. C'est la première pour moi. C'est cependant un plaisir en tant que préfet, mais surtout un plaisir en tant que lecteur Et la déambulation que nous avons faite tout à l'heure, c'était autant d'invitations ce week-end à aller parcourir les livres, discuter avec les auteurs. Cette foire, c'est d'abord une histoire de passion, une histoire de femmes et d'hommes passionnés, parce que les Corréziens sont des gens passionnés. Passionnés, les fondateurs de cette foire l'étaient assurément, eux qui, avec quelques tréteaux, il y a 40 ans, présentaient quelques livres et qui ne s'imaginaient probablement pas que 40 ans plus tard, nous serions dans ces chapiteaux et que ce serait cette foire, la première foire de France en province. Près de 400 auteurs de un prix Goncourt, un prix Renaudot, me semble-t-il. Ma foi, c'est tout de même une foire de très belle facture. C'est aussi une foire qui fait écho au passé et au présent de la littérature corrézienne, l'école de Brive. Et effectivement, je m'associe à la pensée que vous avez eue pour les auteurs qui sont disparus récemment, et notamment Claude Michelet, qui était un écrivain cher au cœur des brévistes. Et je tiens à saluer l'ensemble des partenaires, les organisateurs, pour votre immense mobilisation, parce que je sais que c'est des mois de préparation. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on va pouvoir, quelque sorte, déguster le plaisir de découvrir ces auteurs. Cette foire, c'est aussi donc un moment de plaisir. Plaisir pour les auteurs qui viennent de Paris par train, un train du livre, ou alors certains ont beaucoup de fantasmes sur ce train du livre. Il s'y passe beaucoup de choses, des rencontres, peut-être des excès parfois, peut-être par le passé, plus maintenant probablement. C'est aussi un week-end de rencontres, un week-end de gastronomie, un week-end de rugby également. Parce que, en fin de compte, on dit souvent que Paris est une fête, mais ce week-end, c'est Brive qui est une fête. Cette foire, c'est également un moment d'émotion pour le public, pour les simples lecteurs, et j'en fais partie, qui viennent de différents milieux, notamment milieux populaires, et qui vont aller à la rencontre d'écrivains. C'est un moment d'émotion, un moment très intime, en fait, parce que souvent on connaît les ouvrages de son auteur, on a envie d'aller à Brive pour aller le rencontrer, on s'approche du stand, on est un peu timide, on ne sait pas trop quoi lui dire, alors on avance, et puis là, la parole se libère, on commence par dire « vraiment j'ai beaucoup aimé vos livres ». C'était assez banal, mais ma foi, c'est ce qu'on dit, parce que c'est... Et la parole se libère, et tout d'un coup, on commence à parler de quelque chose de très intime, parce qu'entre un lecteur et l'écrivain, c'est une affaire, en fait, très personnelle. Et puis on en ressort, en général, avec un grand sourire, et puis on dit « Oh, ben, je le connais par cœur, cet écrivain ». Cette foire, c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'avenir du livre, à la filière du livre. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, les auteurs, les éditeurs, les libraires, les imprimeurs, les distributeurs, les détaillants. Mais il ne faut pas oublier que la clé pour l'avenir du livre, c'est d'abord les lecteurs. Et c'est d'abord les futurs lecteurs. Ces jeunes lecteurs à qui on doit et on se doit de leur donner la passion et l'amour de la lecture. Aujourd'hui, en 2022, on a fait de la lecture une grande cause nationale. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place. Le Pass Culture, qui bénéficie à près de maintenant de 2 millions de jeunes, et qui va être étendu aux 15-17 ans, qui va permettre à des jeunes d'acheter des livres. C'est aussi la possibilité, à travers le plan en faveur de la bibliothèque, de renforcer les bibliothèques, notamment en milieu rural, de faire en sorte qu'elles soient ouvertes plus longtemps. Tout ça pour permettre de donner aux jeunes cette passion de la lecture. Sans les lecteurs, eh bien, les auteurs seront bien seuls. L'essentiel, donc, c'est de donner du goût aux jeunes générations, mais aussi à ceux qui ont parfois perdu le goût de la lecture et ou ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'y avoir accès. Et je terminerai en citant Marcel Proust dans son ouvrage sur la lecture. Marcel Proust, qui n'est pas un écrivain de l'école de Brive, je rappelle. Monsieur le maire, tout n'est pas à Brive. Il y a un club du rugby à Tulle, ça m'a bien marqué. Et pour reprendre les mots de Marcel Proust, il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Et que nous dit Marcel Proust? Il nous dit tout simplement, lire, c'est vivre pleinement. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci, Étienne Desplanques. Monsieur le préfet, je tenais à vous préciser que ce qui se passe dans le train du livre reste dans le train du livre et je n'en dirai pas davantage. Il est temps maintenant, sous votre regard, de remettre le prix de la langue française. C'est un grand prix. Et je vais demander au président de nous rejoindre. Il est là, Éric Fottorino.
Bonsoir. Merci, Karine. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur, un grand bonheur pour moi qui a été catapulté vraiment président de ce jury. Je ne savais pas ce qui m'arrivait ce jour de ce déjeuner. On m'a dit « tu fais partie de ce jury » et puis on m'a nommé président, comme ça. Vous voyez, quelquefois la vie est simple, hein, monsieur le maire. Enfin non, tout a commencé à se compliquer. Ce prix de la langue française est un très beau prix. Parce que c'est la langue, c'est ce qui nous fait nous comprendre tous, communiquer, ressentir des émotions, avoir envie justement de lire. J'ai beaucoup aimé, monsieur le préfet, ce que vous venez de dire, parce que la lauréate de ce prix, j'ai presque envie de me comporter en lecteur vis-à-vis d'elle et d'être un peu intimidé, parce que c'est pas un livre qu'on va primer, c'est une œuvre. C'est une œuvre, et c'est une œuvre qui compte dans la littérature aujourd'hui. C'est une voix très singulière. Et quand je pense à elle, vous voyez, je fais un peu du réel suspense. Quand je pense à elle, je pense à ce mot de Colette qui disait, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Et lorsque je pense à Natacha Apana, qui est la lauréate de ce prix, viens, Natacha. Je vais l'applaudir. Lorsque je pense à... Viens, Natacha. Là, vous voyez, c'est très troublant parce que je voyais Natacha avec les cheveux longs, elles y sont courts, alors ça me trouble après pour faire le discours. Viens, Natacha. Alors, c'est vrai que l'œuvre de Natacha Apana est une œuvre, je le disais, très singulière parce qu'elle est universelle. Et je crois que ce qui a été une volonté de ce jury, ça n'a pas été de faire un prix de la francophonie, un très beau prix de la francophonie, mais ça a été de dire on parle de la langue française, on parle de la littérature française, et qui aujourd'hui représente cette littérature, elle n'est pas toute seule, mais la porte très haut, avec beaucoup d'exigence, avec beaucoup d'humilité aussi. La langue de Natacha, c'est Apana, c'est une langue très accessible, très simple, et elle sait comme moi que le plus simple, c'est le plus difficile pour écrire, donner l'impression que c'est simple. C'est une œuvre très humaine, c'est-à-dire qu'elle nous parle de Mayotte et de la jeunesse perdue de Mayotte, comme dans Tropique de la violence, qui s'était vu décerner des prix très importants, puisqu'il avait reçu le prix Femina des lycéens et le prix France Télévisions, qu'elle nous parle de l'univers de la prison, qu'elle nous parle, si on remonte dans le temps, de ses grands-parents d'origine indienne, indiens, qui étaient ce qu'on appelait des engagés dans ce roman qu'elle avait publié, Les Roches de Poudre d'Or. Les titres de Natacha sont déjà des invitations au voyage, mais aussi à entrer dans l'empathie avec ces personnages, eh bien, vous comprendrez pourquoi je cite Colette, écrire comme personne. Cette singularité, c'est ça qui fait qu'on reconnaît un écrivain, une écrivaine. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, vraiment à découvrir l'œuvre de Natacha Apana. Alors, tout à l'heure, mon ami François parlait de avoir question à tout. Et je pense qu'il avait en tête ce très beau texte de Milan Kundera qui s'appelle « L'art du roman », où il dit « Un roman n'a pas réponse à tout, il a question à tout ». Et c'est vrai que lorsqu'on lit les romans de Natasha Appana, lorsqu'on vit avec eux, avec ces personnages, avec ces problématiques qu'elles posent, on ressort sûrement avec plus de questions qu'on en avait quand on est entré. Et c'est vrai que c'est ça la littérature. Alors lui a dit que c'était Blanchot, moi je croyais que c'était Gary qui avait dit que la réponse est le malheur de la question. Mais peut-être que tous les deux ont dit ça. L'un, Gary était habitué à prendre aussi des mots aux autres. En disant « je n'aime pas assez mes vérités pour ne pas aimer celles des autres ». Eh bien, il y a ça aussi dans l'œuvre de Natasha Appana, c'est une empathie, une compréhension de pourquoi à un moment donné on va en prison, pourquoi à un moment donné on n'est pas justement dans la norme, et qu'est-ce qu'on devient comme ça. Alors, chère Natasha, dans ce palmarès, depuis 1986, ce premier prix avait été attribué à Jean Tardieu. Il y a eu beaucoup de lauréats. Parmi eux, l'an dernier, Pierre Bergougnoux. Il y a eu aussi Pierre Guillotat. Il y a eu Pascal Quignard. Chez les femmes, peu de femmes. Jacqueline de Romilly, Mona Ozouf. Et je suis heureux qu'une romancière, qu'une écrivaine soit lauréate de ce très beau prix. Bravo, Natacha.
Merci. Je vais commencer par le dernier mot du discours de François Bunel. Merci, monsieur le maire. Merci aux membres du jury. Merci, Eric. C'est un prix que j'ai reçu avec beaucoup de bonheur et un peu de surprise. Et depuis, enfin, ça fait une dizaine de jours que je le sais, j'ai l'impression que c'est comme une guirlande de petites lumières que vous m'avez offert. Et qui éclaire tout mon parcours littéraire depuis, en effet, les Rochers de Poudre d'Or. Et je voudrais saluer ici la présence de David Ducreux et de Jean-Charles Grunstein, qui me connaissent, j'allais dire depuis que je suis petite, mais pas tout à fait, mais depuis la publication de mon premier roman chez Gallimard en 2003. Et tu as en effet cité quelques noms du palmarès. J'ai l'impression d'être bien au chaud dans ce palmarès. Il y a des auteurs que je continue à lire, il y a des auteurs qui sont des modèles. Et ce prix de la langue française m'est particulièrement précieux, si je peux m'exprimer ainsi, parce que dans mes romans, en tout cas quand je me mets à écrire, j'aime qu'il y ait cet équilibre entre la poésie et la prose, entre ce que l'on dit et la manière dont on le dit. Et la manière dont on le dit, c'est souvent la langue. Et je trouve que quand on le dit bien, la langue devient un langage. C'est un langage qui naît, qui vit dans ce texte-là. Donc, merci à tous. Merci, monsieur le maire, et merci, Eric.
C'était une très belle inauguration avec un très beau prix. La 40e édition est donc lancée. Je vous la souhaite au nom de tous excellente. Merci à tous.